On va parler de nomination et de pollution dans ce journal. On ira à l'OPT, au port autonome et au CESEC, et puis du sport au Salomon, bien sûr, J-2 avant la fin des Jeux. Le journal de l'information de 7h, c'est avec Charlie René. Bonjour Charlie.
Bonjour Antoine, bonjour à tous.
Et on commence avec cette question, qui sera le prochain PDG de l'OPT ?
Une question sur la table depuis que Jean-François Martin, en poste depuis 2015, a annoncé son départ en juillet. Ce devrait être pour la fin de l'année. Le gouvernement n'avait pas tardé à lancer les recherches de remplaçants et malgré la situation délicate de l'établissement public, le poste attire les candidatures, 22 au total, puis 5 après un tri d'un prestataire privé. Ces prétendants ont ensuite été auditionnés, notés, hiérarchisés par un jury politico-administratif et les résultats devaient être présentés hier soir à Moitié Brotherson. Le président n'a pas à respecter le classement, mais il devra soumettre son choix à l'Assemblée et au Conseil des ministres. La shortlist de candidats, elle, est toujours tenue secrète. Mais les noms de potentiels PDG ont déjà circulé dans les milieux économiques et politiques, notamment celui de Maria Noué, juriste de formation qui monte depuis une quinzaine d'années les échelons au sein du groupe. La fille de la ministre Chantal Gallon est aujourd'hui la secrétaire générale de l'OPT, un poste clé qu'occupait d'ailleurs Jean-François Martin avant de prendre les rênes du groupe. Autre candidat auditionné extérieur, celui-là, Roland Bopp, cadre de la mairie de Fa et ancien directeur de cabinet d'Oscar Temaru. Damien Charita avait lui fait le déplacement depuis la métropole pour participer. Ce chef d'entreprise spécialisé dans le conseil et la formation en télécom a régulièrement travaillé avec la Polynésie et notamment l'OPT. Alors d'autres noms ont circulé ces derniers temps, notamment celui d'Ina Delva, actuelle directrice commerciale de DTNJ, qui dément pourtant avoir été auditionnée. Et puis plus étonnant, le nom de Thomas Lefebvre-Segar est aussi revenu sur la table. L'éphémère directeur Donati, remercié par Jean-François Martin, est en conflit judiciaire avec l'OPT. Beaucoup de possibilité donc auquel s'ajoute une autre option pour Moitié Brotherson, scinder le poste de PDG en deux avec un directeur général d'un côté et un président du conseil d'administration de l'autre, une organisation qui prévalait jusqu'en 2015 au LOPT.
Ça dépendra du bilan, d'abord du fait qu'on ait fusionné ces deux postes. Il ne faut pas non plus que ça coûte plus cher que ce qu'il y a actuellement. Aujourd'hui, Jean-François a cumulé ses deux fonctions sans être rémunéré en tant que président du conseil d'administration. Voilà, c'est un choix qu'on devra faire. Mais pour l'instant, l'appel à candidature est basé sur le poste actuel.
Vanina Krolla, la ministre de la fonction publique qui faisait partie du jury. Il faut tout de même préciser que si le groupe EPT a été passé à un PDG unique, c'était notamment sur recommandation de la Chambre territoriale des comptes. La décision de Moitié Brotherson devrait tomber dans les jours à venir. Elle est très attendue. Le groupe EPT, avec ses filiales Onati, Farerata ou Marara Paiement, entre autres, c'est 22 milliards de francs de chiffre d'affaires et une perte record de 2 milliards l'année dernière.
Et puis direction le CESEC maintenant.
Et oui, le Conseil économique et social qui a voté en faveur d'une auto-saisine hier matin. Le sujet, salarié et patenté, complémentarité ou concurrence. Une question récurrente en Polynésie, une question sensible aussi. Elle est posée aujourd'hui par des représentants du patronat. Il faut dire que le nombre de ressortissants du régime des non-salariés a bondi de 15% depuis 2019. Preuve que le recours aux patentés se développe. Des patentés qui ne cotisent pas au régime retraite et ne sont pas soumis au code du travail ou aux conventions collectives. Pour Jeff Benhamza, se pencher sur ce sujet n'a rien d'incohérent pour les chefs d'entreprise.
Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a une distorsion de concurrence sur les appels d'offres. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un se présente qu'il a une trentaine de salariés et qu'il a une entreprise à peu près de la même taille mais qui a la moitié de son personnel ou les trois quarts de son personnel qui sont des patentés, bah forcément celui qui a des patentés, il va être beaucoup plus concurrentiel que l'autre. Alors que finalement, celui qui contribue le plus aux efforts pour la société polynésienne, c'est celui qui n'a que des salariés. Donc non, ce n'est pas si antinomique que ça.
Jeff Benhamza, représentant du syndicat des industriels de Polynésie française, qui est donc à l'origine de cette auto-saisine. Elle doit aboutir d'ici 5 ou 6 mois à un rapport sur les dérives du recours aux patentés qui proposera pourquoi pas des éventuelles évolutions de la réglementation.
Et puis toujours côté social, cette menace syndicale.
Ah oui, celle de la frappe, syndicat qui n'est pas encore représentatif au niveau territorial mais qui de conflit en élection fait peu à peu son trou dans la fonction publique du pays. Hier, son secrétaire général Jean-Paul Ourima a menacé d'une nouvelle grève, la 8e depuis 2021, si rien n'était fait pour mettre fin à certains dysfonctionnements au sein de la fonction publique. Dans le viseur notamment, la direction de la modernisation et des réformes de l'administration, la DMRA, accusée de ne pas fournir les rapports d'audit demandés à l'issue de certains conflits. Écoutez.
C'est un service qui ne sert absolument à rien dans la fonction publique. Et je l'ai déjà répété devant certains ministres, dont la ministre de la fonction publique. C'est un service qui ne sert à rien, si ce n'est qu'à mettre des bâtons dans les roues, dans le bon fonctionnement des services et des établissements publics.
Voilà, des propos forcément condamnés par le directeur de la DMRA, Éric Déa. Il explique que le travail est bien fait quand il est demandé dans les règles et que les rapports d'audit qui obéissent à des procédures strictes atterrissent sur la table du gouvernement avant celle du syndicat. Qu'importe pour la frappe qui vise aussi la DSI avec des accusations lourdes du détournement de matériel informatique. Là encore, démenti de l'administration ou démenti partiel puisqu'elle indique tout de même avoir sanctionné des agents dans ce service pour des faits aujourd'hui réglés. Au syndicat d'étayer ses preuves. Affaire à suivre donc.
Et puis dans ce journal, on parle d'épaves maintenant.
Celles qui gisent dans le port autonome de Papeete, qui a lancé un grand ménage à l'orée d'une saison cyclonique à risque. Première épave à démanteler l'Oiseau des îles, un thonnier de 25 mètres qui se trouve sur un ponton flottant en face du port de pêche. Un propriétaire défaillant, mais au moins un propriétaire identifié, ce qui n'est pas le cas du Niño Maravilla, un bateau de pêche qui pourrit depuis 2018 sous le pont de Motouta. Il est arrivé avec un équipage équatorien à bord, équipage qui a été renvoyé en Amérique du Sud par avion quelques jours plus tard, vu les problèmes de sécurité majeurs de l'embarcation. L'acier de ces deux navires doit être recyclé, les autres déchets retraités sur le port qui a bien d'autres épaves à traiter à l'avenir. Quatre vieux thoniers attendent notamment sur un dock de Faleute, tout proche de nos studios. Des procédures sont en cours sur ces bateaux et puis aussi autour du Corsair, ancien navire du groupe de Gage qui lui est déjà au fond de l'eau près du pont de Motouta.
Environnement toujours, les échanges qui continuent sur le sujet de la Tour des Juges.
Mais ils n'en finissent pas ces échanges. Vous avez entendu hier matin les gros coups de gueule de Raymana Van Bastoler qui n'a pas apprécié les menaces de certains militants anti-tour. Hier midi, la parole est revenue à l'association Veyara au Teahupo qui n'a pas répondu à Raymana mais plutôt au comité Paris 2024. Alors rappelez-vous, ce comité avait lui-même répondu à la dernière vidéo de Matei Drolé qui l'accusait entre autres de garder des documents secrets sur la Tour des Juges. Faux, avait répondu le comité. Tout le dossier technique a été envoyé aux protestataires il y a quelques jours. Mais dans cet envoi, Veyara voit une manœuvre grossière, je cite, puisque ce dossier avait été demandé depuis plusieurs semaines en septembre et qu'il a fini par être livré en pleine finalisation de la vidéo. L'association en profite pour redemander de façon plus officielle cette fois les rapports de conformité sur les fondations actuelles de la tour en bois, des fondations inutilisables d'après le comité, ce que les militants contestent. Pas la fin de la polémique à Teahupo donc.
Et puis on termine avec les Jeux du Pacifique qui touchent bientôt à leur fin.
Oui, il reste deux jours de compétition à Honiara et Tahiti pointent désormais à la deuxième place du classement, 141 médailles, 46 en or, encore loin des impitoyables calédoniens, mais la délégation du Fénois est désormais devant l'Australie, et ce grâce à 5 nouvelles médailles d'or récoltées hier, Valdemar Delage.
A commencé Charlie par le triathlon. Hier matin, Benjamin Zorniotti l'a emporté chez les hommes, tandis que Salomé De Barthez a gagné chez les filles. Alors le premier conserve son titre, tandis que la seconde décroche enfin l'or après 2 médailles d'argent sur les 2 derniers jeux. Et puis on note aussi ces 2 médailles d'argent justement pour Jean-Marc Rimaud chez les messieurs, toujours en triathlon, et Maïdi Sucé chez les dames. Maïdi qui n'a que 16 ans, hein, ce qui prouve que la relève tahitienne est au rendez-vous. Alors sur ces deux courses, les Tahitiens ont fait la différence dans l'eau, avant de montrer un bel esprit d'équipe sur la partie cycliste. La différence pour la médaille d'or s'est finalement faite sur la partie pédestre à chaque fois. Et chez les hommes comme chez les filles, ce sont des Calédoniens qui ont obtenu le bronze. Tahiti Calédoni, c'est l'opposition régulière en triathlon dans le Pacifique. Mais cette année, il n'y a pas eu match, Charlie.
Valdemar Delage, notre envoyé spécial au Salomon, qui suivra aujourd'hui les triathlètes de nouveau. Triathlètes qui enchaînent avec les épreuves par équipe, mais aussi par l'aquathlon. Nouvelle chance de médaille. Donc les rameurs de leur côté vont disputer eux les courses de marathon en V6, des rameurs qui ont aussi rapporté des médailles d'or hier, une quatrième pour Iloa Echen en kayak, sa deuxième avec sa jeune partenaire de 16 ans Natehai Sommer. Les Tannés ont fait médaille d'argent sur la même épreuve de marathon et les Va étaient aussi engagés en longue distance. Or encore pour Toatea Tereyamano, de l'argent pour Maya Berdi Shevsky Poroy, de l'or toujours décidément en athlétisme pour Raihao Mayao, de nouveau dominateur en saut en longueur. Du côté des terrains de football, le tournoi s'est terminé pour les Toaito.
Oui, les footballeurs qui bouclent ces jeux à la 5e place après leur succès 2-0 hier soir contre la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Alors chose curieuse, les Tahitiens n'ont jamais perdu hein, cette année. 3 victoires et un match nul, 9 buts marqués pour un seul encaissé. Mais c'est l'étrange format du tournoi, des poules de 3 équipes qui a poussé Tahiti vers la sortie prématurément. On peut parler de réel raté hein, pour la fédération océanienne de ce côté-là. Et la finale de cette étrange compétition est prévue demain. C'est entre les Calédoniens et les Salomonais.
Voilà Valdemar Delage qu'on retrouvera dans notre édition de midi pour faire un point sur l'avant-dernière journée de compétition à Honiara. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Comme d'habitude, on se retrouve à 7h30 et c'est de nouveau pour une revue de presse.
Merci Charlie René, à tout à l'heure.